Et il est midi 15, l'heure du plaisir de lire, de se poser. Et je suis sûre qu'il vous a manqué hier le fameux Samuel Victoria et son coup de cœur littéraire.
Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet assez intéressant à mes yeux. Donc toujours un petit peu dans cette philosophie de faire se rejoindre l'histoire du sport et l'histoire tout court. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un vélo contre la barbarie nazie, l'incroyable destin du champion Gino Bartali. Donc c'est un livre qui est paru cette année de la plume d'un journaliste italien qui s'appelle Alberto Toscano. Donc, comme je disais, donc il est né en 1948 à Novare, en Italie. C'est un docteur en sciences politiques à l'université de Milan et journaliste depuis 1975 et correspondant de la presse italienne à Paris depuis 1986. Donc, c'est un des journalistes étrangers les plus présents sur les chaînes de radio et de télé françaises. Et donc, du coup, c'est un personnage que j'ai découvert cette année. Et qui a décidé de reprendre entre guillemets l'épopée d'un coureur cycliste italien des années 30 et 40 qui a contribué à sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous allons à la fois suivre le destin de ce cycliste, mais aussi celui de l'Italie mussolinienne. Et donc on va voir comment comment il a pu utiliser à la fois sa célébrité de coureur et aussi ses convictions politiques pour contribuer à sauver des juifs de la déportation. Donc je vais commencer par une brève présentation du cycliste, donc Gino Bartali. Donc c'est un enfant de Florence qui est né en 1914 et mort en 2000. Donc sur le côté sportif, c'est un de ces rares coureurs à avoir obtenu des résultats avant et après la guerre, dans le sens où il a été vainqueur du Tour de France en 1938 et 1948, ainsi que du Giro, donc le Tour d'Italie, en 1936, 1937 et 1946. Donc au niveau sportif, pour ceux qui connaissent, il a aussi remporté 7 monuments, dont 4 fois le Milan-San Remo et 3 fois le Tour de Lombardie. Donc c'était un des coureurs les plus célèbres de l'époque, surtout pour son engagement sportif, parce que personne ne savait jusqu'à il n'y a pas longtemps l'engagement qu'il avait eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un jeune Italien qui a grandi donc à Florence, Ponte a Emma. Donc c'est un petit village qui aujourd'hui fait partie de Florence, a été absorbé par la ville. Donc c'est un catholique convaincu qui a grandi dans une famille catholique avec un père très croyant et socialiste dans l'entre-deux-guerres. Donc ce qui était pas facile au vu de la situation géopolitique de l'Italie. Et donc il a été très très influencé par sa culture catholique, qui l'a poussé en fait à devenir également un ennemi de l'antisémitisme à travers ses actions de citoyen. Au niveau de sa personnalité, c'est un homme très modeste et réservé. Qui ne révélera jamais ses actions de citoyen durant sa vie. Donc il a couru jusqu'à l'âge de 40 ans, en 1954. Il a mené une grande carrière à l'époque, pour ceux qui connaissent, avec entre autres Fausto Coppi. Donc au niveau de son chemin de vie, son côté très pieux l'a amené à prendre des engagements au sein de structures comme l'Action catholique à l'époque, qui était très très vivace en Italie. Et il a choisi de s'engager aux côtés des catholiques qui ont décidé de se battre pour sauver des juifs en Italie à l'époque. Donc ça va nous permettre également d'aborder en substance la question de la position de l'Église qui s'est révélée être assez ambiguë en Italie à l'époque. Donc on y reviendra pour essayer de comprendre cette ambiguïté. Donc l'élément qui a fait basculer Barthélemy dans l'engagement citoyen, c'est qu'il était un ami proche d'un cardinal. Donc il y a une anecdote assez rigolote à ce sujet, c'est que Barthélemy était un grand fan, si je puis dire, de Sainte Thérèse. Et il avait édifié chez lui une petite chapelle à son effigie qu'il avait fait bénir par le cardinal. Et quand il est parti pour la première fois sur le Tour de France, son premier objectif, c'était d'arriver jusqu'à l'étape de Lisieux pour pouvoir aller se recueillir sur Sainte Thérèse. Donc ce cardinal qui était engagé déjà dans le sauvetage des juifs lui a proposé de rentrer dans le jeu. Et donc d'utiliser à la fois sa célébrité, puisque c'était un des hommes les plus célèbres d'Italie à l'époque, très aimé, et d'utiliser sa célébrité et la nécessité qui s'entraîne pour pouvoir franchir un certain nombre de barrages et de cacher des messages à l'intérieur de son vélo. Donc de façon très ingénieuse, ils avaient trouvé un système où ils pouvaient cacher des documents en dessous de la selle, et les documents étaient destinés à pouvoir faire en sorte que des juifs obtiennent des papiers italiens et des certificats d'italianité qui étaient utilisés à l'époque. Donc la façon dont ils s'y prenaient, c'est que quand ils partaient à l'entraînement, il cachait ses documents, et quand il arrivait à un checkpoint militaire, le fait qu'il s'arrête là, les gens le reconnaissaient toujours et du coup avaient un regard plutôt bienveillant sur le champion, sans se douter de ce qui se passait dans le vélo. Et du coup, il y a des anecdotes très rigolotes, si je puis dire, de ces actions-là, c'est que une fois qu'il était arrêté, le peuple le voyait arriver, le célébrait. Et donc du coup, les contrôles devenaient beaucoup plus faciles, puisque les militaires se retrouvaient débordés devant l'engouement de la population. Donc parmi ces engagements, il a été encore plus loin, dans le sens où il a hébergé dans sa cave pendant de longs mois toute une famille de juifs qui étaient persécutés et qui du coup lui ont rendu hommage plus tard et ce qui lui a permis en fait à Barthélemy d'être reconnu post-mortem comme un juste parmi les nations. C'est un titre qui est décerné par Israël, qui définit les personnes qui ont apporté une contribution concrète au sauvetage des juifs pendant la Shoah. Donc à la fin de sa carrière, il a fait un peu de télévision, un peu de radio, mais il a toujours été très discret. Et du coup, après sa carrière, il y a moins de choses intéressantes à raconter par rapport au sujet qui nous intéresse. Mais du coup, je voulais resituer un petit peu la situation de l'Italie de l'époque, puisque du coup, sous Mussolini et à la fin des années 30, on a commencé à avoir le même système qu'en Allemagne, à savoir les lois raciales comme en Allemagne, qui ont écarté les juifs des postes de responsabilité, des postes d'enseignants, de médecins, ça qui les ont mis en dehors de la vie civile. Et ce sont des choses qui ont profondément heurté à la fois Barthélemy et ses amis de l'Action catholique. Et du coup, les lois raciales ont permis de lancer un espèce de blackout sur les juifs. Et à ce moment-là, si on se resitue, au milieu des années 30, on avait Pie XI, donc le pape Pie XI, qui lui était profondément contre Hitler et le fascisme en général, mais du coup qui est mort quelques années après, en 1940 il me semble, ou 41. Et à la suite, il y a eu Pie XII, dont la position lui a été plus discutée dans l'histoire. Et pour situer un petit peu la situation de l'Église en Italie à l'époque, en mai 1936, Hitler vient visiter Mussolini à Rome. À ce moment-là, c'est Pie XI qui est au Vatican et qui décide, pour manifester sa désapprobation à l'égard du nazisme, d'éteindre toutes les lumières du Vatican et de fermer l'accès au Vatican à toute la clique d'Hitler qui l'a accompagné. Et il s'en va en expliquant que l'air de Rome devient irrespirable et qu'il reviendra uniquement quand Hitler sera parti. Ici, on a aussi une petite remarque intéressante pour poser la situation, c'est que aucun journal français, des journaux mainstream comme on dirait aujourd'hui, ne mentionnera la position du pape Pie XI, en dehors du journal La Croix. Et à l'époque, on constate qu'il y a en France également on laisse des facilités à l'amitié entre guillemets italo-allemande qui se crée, et du coup on s'interroge sur la position du gouvernement français à l'époque sur la question. Et donc le pape Pie XI qui est décédé quelques années plus tard, lui avait décidé de s'engager fort, ce qui n'a pas été le cas depuis 12 ans, qui lui s'est retrouvé dans une position nettement plus ambiguë et du coup qui s'est pas nécessairement investi suffisamment aux yeux de beaucoup sur la question de la défense de la vie des juifs. Mais à l'intérieur de l'Église, il y a aussi les couvents et les monastères. Et c'est de là qu'en Italie, les actions de l'Église se sont manifestées. Il s'agit surtout d'initiatives ou individuelles ou de groupuscules qui s'organisaient pour héberger dans les couvents et dans les monastères des familles entières en les faisant passer pour chrétiens, au risque d'être découverts. La situation est pas évidente à visualiser, puisque au niveau de l'image publique, l'Église ne s'est pas forcément beaucoup engagée, mais en sous-main déjà un petit peu plus. Donc c'est une question qui est assez présente chez les historiens, de toujours trouver le point d'équilibre sur la position de l'Église sur ces questions-là. Pour revenir à Barthélemy, il y a une foule d'anecdotes dans ce livre. J'aime beaucoup les anecdotes parce qu'elles sont elles représentent par des images des émotions et des sentiments qu'on peut revivre à travers ces anecdotes. Et pour situer un peu le poids de Barthélemy dans la société italienne de cette époque, une fois la guerre finie, en 1948, il y a eu un attentat contre le leader du Parti communiste italien de l'époque, qui s'appelait, il me semble, Togliatti. Et à la suite de cet attentat, il y a eu des émeutes et des dizaines de morts à la suite de cet attentat dont Togliatti survivra. Et dans les jours qui suivent, il appellera à la paix en disant que ce n'est pas l'heure de la révolution et à ce moment-là, quand l'attentat a lieu, c'est le 14 juillet. On est en plein Tour de France, auquel participe Bartali pour la première fois depuis la fin de la guerre, puisque les Italiens et les Allemands n'ont pas été conviés aux éditions de 46 et 47, au vu de la situation en Europe. Et le jour de l'attentat, le président du conseil, de Gasperi, il me semble, fait appeler Bartali, qui est sur le tour et qui est en souffrance, qui est 6e ou 7e au classement, à plus de 20 minutes de Louison Bobet à l'époque. Et il lui demande de faire tous les efforts possibles pour ou gagner des étapes ou gagner le tour. Pour essayer d'apaiser la population. Donc c'est une anecdote qui montre à la fois le pouvoir du sport et le pouvoir d'un homme dont la célébrité est appréciée, et comment il peut encore utiliser cette image-là à des fins louables. Et du coup, l'histoire montre que dans le 15 et le 16 juillet, Bartali s'impose dans les Alpes et regrignote du temps sur Bobet, et il finira vainqueur du tour, comme lui avait demandé le président du conseil. Je trouve ce genre d'anecdote très éloquente, dans le sens où ici on peut considérer que son amour de la patrie et son amour pour la paix à Bartali lui a donné des ailes dans un moment où il était en grande difficulté sur son vélo, et que du coup l'énergie qu'on lui a donnée lui a permis d'atteindre à la fois ses buts individuels, mais également de nourrir une certaine joie pour son peuple. L'Italie, c'est un vrai pays de vélo, depuis toujours, qui a une grande culture à travers les époques. Et je trouve que ce personnage-là montre comment un acteur de l'histoire du sport devient un acteur de l'histoire tout court. Et je me répète, mais c'est une image pour moi qui montre la responsabilité aussi qu'on a quand on est un sportif célèbre et adulé comme il l'était, et qu'il a réussi à en faire un combat pour la justice et également pour l'amour. Et c'est, pour moi, c'est assez fantastique de voir qu'il y a des hommes qui sont capables de penser ainsi, quoi. De ce personnage, et de cette histoire, on peut retirer aussi différentes remarques. C'est que dans les années 30, on a eu affaire pour la première fois dans le 20e siècle à des figures politiques qui ont tenté d'utiliser le sport à des fins de propagande. On peut se rappeler des Jeux Olympiques de Munich en 1936, utilisés par Hitler pour développer le mythe de l'Aryen fort, de l'Aryen suprême, et de montrer que les autres races, entre guillemets, sont en dessous de l'Aryen. Et Mussolini, lui, a tenté d'utiliser les succès de Bartali pour promouvoir le fascisme. C'est-à-dire que les journaux de l'époque mettaient toujours en relation, donc les journaux de l'époque, c'est la Gazzetta dello Sport et El Corriere dello Sport, qui, dans leur sémantique, présentaient toujours les victoires italiennes comme soit des victoires du duché, soit des victoires du fascisme. Et ils imposaient à tous les sportifs le salut fasciste dans les manifestations publiques. Ce que Bartali, lui, remplaçait par un signe de croix. Ce qui montre la nature de son engagement, même dans l'avant-guerre. Et dans ce sens, quand il gagne le tour en 1938, dans une année critique pour l'Europe, Il est le seul coureur italien qui ne fait pas le salut fasciste. À l'époque, les équipes de cyclisme étaient organisées en nations. Donc, il y avait l'équipe de France, l'équipe d'Italie, l'équipe de Suisse. Tous les coureurs italiens faisaient le salut fasciste, sauf lui. Et du coup, c'est le fait qu'il soit tant aimé du public l'a protégé d'une certaine manière, comme on a pu le voir également dans son action de citoyen et de militant pour la paix. Donc là où je voulais en venir aussi, c'est que la question des juifs dans l'Italie de l'entre-deux-guerres est assez difficile à mesurer, dans le sens où, comme Mussolini est arrivé au pouvoir en 1923, si je dis pas de bêtises, et qu'il se passe 15 ans, du coup, avant les prémices de la guerre, un certain nombre de juifs étaient fascistes, et du coup militaient pour Mussolini. Ce qui a posé un certain nombre d'interrogations dans la population juive au moment où il a commencé à sortir les lois raciales et à exclure de la vie publique les juifs. Et du coup, dans le livre, il y a un passage intéressant je vais vous lire un tout petit texte qui est une lettre qui est conservée aux archives d'État en Italie, qui est de la plume d'une institutrice juive italienne et qui écrit au Doucet pour lui expliquer ses doutes quant aux lois raciales. Bien que juive, depuis de longs siècles et plus encore, je suis italienne. Je suis veuve. Mon mari fut officier d'infanterie, blessé et décoré pendant la Grande Guerre. J'ai un fils unique, inscrit à Polytechnique. Je suis depuis plus de 20 ans enseignante en école élémentaire, bien notée et appréciée. On me retire cet emploi qui m'est indispensable. Et à mon fils la possibilité d'étudier. Croyez-vous vraiment qu'une telle épouvantable amputation de notre vie de parfaits Italiens dans notre Italie soit méritée? Avec foi en vous seul, encore, obséquieusement, Elvira Finzi. J'ai choisi de lire ce petit passage parce que il montre comment, bien que mise de côté par les lois raciales, cette enseignante continue de croire en Mussolini et l'interroge sur la justice de ces lois, et même la justesse. Et du coup, on peut sentir à travers ce passage tout le côté dubitatif de l'enseignante qui s'interroge, qui se dit « Moi, je suis juive, mais je suis italienne, je m'investis dans la vie de la cité. » Je suis quelqu'un d'apprécié, de reconnu, mais on peut voir le fait que le mari se soit battu pour l'Italie également. Donc des gens très installés dans la société et qui, en dépit des violences qui s'annoncent et qui ont déjà commencé, continuent de croire en Mussolini. Et de continuer à croire au fascisme, ce qui peut paraître assez lunaire de notre regard de contemporain, mais qui illustre toute la difficulté de sentir cette époque. Et donc du coup, voir des gens qui, comme Bartali, et les gens qui ont travaillé dans ces réseaux, les couvents, les monastères, tout ça, des gens qui, guidés par une foi en l'homme et une foi en l'amour indéfectible, n'ont pas perdu du regard ce qu'était la vraie justice et le vrai amour. Et du coup, c'était vraiment le message que je voulais garder de fin pour expliquer ce personnage. C'est que il a gardé cette clairvoyance. Il a gardé le sens de la justice et il l'a utilisé sur son vélo. Et pour moi, ça fait partie de ces héros dont on parle trop peu et qui montrent réellement le poids que peut avoir un sportif dans l'histoire s'il l'utilise à bon escient. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté cette semaine, en espérant vous retrouver l'année prochaine. Avec plaisir. Bonne journée à tous.